Alors bonjour à tous ceux et celles que j'ai pas vus ce matin. Soyez bienvenus, c'est content de revoir vos visages. Alors juste, j'aimerais compris juste avant. Seigneur, merci pour ces bons moments déjà que tu nous as donnés ensemble et la joie d'être ensemble entre frères et sœurs, de n'être plus des étrangers, mais des gens de la maison de Dieu, citoyens du ciel. Merci Père, merci pour ton esprit, pour cette famille que tu as formée. Merci parce que nous sommes tes frères, tes sœurs et nous avons une relation personnelle avec toi, chacun, individuelle et précieuse. Et ensemble aussi, tous ensemble, nous sommes heureux d'être ensemble, de t'adorer, d'avoir une communion. Père, que tu veuilles bénir encore ta parole est la vérité. Seigneur, fais grâce, loin de ton esprit, s'il te plaît. Nous te le demandons et que nous soyons encouragés à vivre pour Jésus. Amen. Alors, devenir chrétien, comment on devient chrétien? Finalement, c'est facile de devenir un vrai chrétien. C'est vraiment très facile. Quand on explique ce qu'il faut faire, comment il faut faire pour devenir un vrai enfant de Dieu, certains disent, mais c'est trop facile. C'est vraiment trop facile. Il faut se repentir de ses péchés, c'est-à-dire reconnaître son péché, demander pardon, et croire que Jésus est mort pour nous, qu'il a versé son sang, qu'il est mort pour nos péchés. Se repentir et croire. Et certains se disent, mais vraiment facile, quoi, hein, très facile. Quoique, vous savez, la repentance, la vraie repentance, c'est une repentance qui soit sincère, c'est pas juste pardon vite fait, hein, c'est je reconnais que ma vie eh bien, m'éloigne, me jette loin de Dieu, que je vais aller dans les ténèbres et j'ai besoin vraiment que je sois pardonné. Donc la repentance, c'est quelque chose qui est profond, qui est à l'intérieur. On demande pardon et on croit en Jésus-Christ de tout son cœur. Alors, il y a quand même, c'est quand même quelque chose, hein. Néanmoins, certains se disent, c'est quand même facile. C'est vrai que Dieu ne nous demande pas de faire un pèlerinage, il ne nous demande pas même de vivre une vie parfaite durant toute notre vie. Alors là, ça serait difficile, hein. Impossible même, impossible. Non, il nous demande de nous repentir et de croire en Jésus-Christ. Maintenant, une fois qu'on est sauvé, admettons, on le fait, hein, on se convertit vraiment, on donne son cœur à Jésus, ça ne signifie pas qu'on devient automatiquement comme Jésus-Christ. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous le savez, ce n'est pas parce que Jésus est entré dans mon cœur, qu'il m'a lavé, qu'il m'a pardonné, que eh bien, la minute d'après, eh bien, je vis parfaitement comme Jésus, je suis semblable à lui. C'est sûr, la conversion, elle entraîne des changements. Si on est vraiment sauvé, alors les autres vont le voir, ils vont se dire, mais ah, il y a un vrai changement. Parce que la personne, elle s'est vraiment repentie. Et vraiment, Jésus vit en elle. Mais néanmoins, on ne devient pas pour autant une ressemblance vivante de Jésus-Christ à chaque instant, à chaque seconde, à chaque minute. On vient d'en parler un tout petit peu dans le partage, là. Et pour ressembler à Jésus, il faut demeurer en Jésus. Alors ça va être notre sujet ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Jésus? Lorsque vous demeurez quelque part, ça signifie que vous y restez d'une manière permanente. D'ailleurs, on dit ma demeure, hein, ma maison. Donc une demeure, c'est un endroit où on reste d'une manière continue. On y est tout le temps. C'est notre demeure, c'est notre maison. Et demeurer en Jésus, eh bien, c'est ça, c'est rester d'une manière continue, permanente, en Jésus. Rester en Jésus. Alors, vous vous souvenez probablement que pour l'expliquer, Jésus a pris l'image de la vigne, du cep, des sarments. Donc, des sarments, pardon, il y a un verset, peut-être qu'il y a encore ici, qui nous parle de ça, justement. Le cep, ben, c'est ce tronc principal, hein, de la vigne. Et les sarments, eh bien, Jésus dit, ben, c'est une représentation des chrétiens. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Et donc, il explique, hein, au travers de cela, que demeurer en Jésus, c'est comme un sarment qui est attaché à son cep. Il est lié à son cep. Vraiment lié profondément, même vous tirez sur un sarment, il ne part pas. Hein. Donc, il est attaché, il demeure dans le cep. Et de la même manière, eh bien, Dieu nous dit, demeurer en moi, c'est demeurer comme un sarment attaché à son cep. Il faut que vous soyez vraiment accroché à moi, et que vous soyez vraiment lié à moi de tout votre cœur. Et à ce moment-là, eh bien, quand on vit ça, on demeure en Jésus. On demeure en lui. Et pour nous chrétiens, une fois qu'on vit cette vie avec Jésus, eh bien la question est d'apprendre à demeurer continuellement. Certes, quand vous prenez un sarment, vous tirez dessus, il ne va pas partir. Mais nous, si on nous tire, on se détache du cèpe. Alors il faut revenir au cèpe et s'attacher de nouveau au cèpe. Et c'est tout le temps comme ça, finalement. Tout le temps comme ça, et normalement, eh bien, ça doit aller de mieux en mieux. Mais demeurer en lui, c'est pas l'affaire d'un jour, c'est pas l'affaire d'un mois, c'est même pas l'affaire d'une année. Demeurer en lui, c'est l'affaire de la vie, en fait. C'est l'apprentissage de la vie avec Jésus-Christ. Et il faut beaucoup de temps, il faut des mois et des années, pour apprendre à demeurer en lui d'une manière qui est continue. Et c'est pas quelque chose d'automatique. Il y a un choix, il y a un désir de la volonté. Je veux demeurer en Jésus. Je fais le choix. Je le veux pour cette journée. Et demain, eh bien, il va falloir que je refasse le même choix. Et chaque jour que je recommence, et que je le veuille tous les jours. Certains chrétiens s'appliquent dès la conversion à demeurer en Jésus. En fait, ils ont compris, ils sont sauvés, ils sont heureux, et ils disent, mais moi c'est ça que je veux demeurer en Jésus. Alors, eh bien, ils font tous leurs efforts, et ils progressent vraiment, ils demeurent en lui de tout leur cœur. Mais chacun est différent, on est tous différents les uns des autres. Et puis d'autres comprennent pas tout de suite l'importance de demeurer vraiment en lui. Alors, ils viennent à Jésus, ils l'acceptent, ils sont sauvés, il se passe quelque chose vraiment dans leur vie, c'est merveilleux, hein. Et puis, après, voilà, les aléas de la vie, les circonstances font qu'à un moment, eh ben, ils sont décrochés d'une manière peut-être un petit peu plus permanente. Et puis, on tombe dans une vie charnelle. Et après, il peut y avoir une oscillation. Un jour, je demeure en Jésus, le lendemain, je ne demeure pas en Jésus. Un mois, j'essaye de faire des efforts, puis le mois suivant, j'en fais plus. Et une vie peut baloter comme ça, et ça peut prendre du temps pour apprendre à vraiment demeurer en Jésus. Je ne veux pas que notre vie soit chaotique, mais c'est une réalité. C'est une réalité aussi parmi les chrétiens. Et rien n'est acquis définitivement dans la marche avec Jésus-Christ. Le salut est acquis définitivement. Mais après, dans la marche, eh bien, c'est un effort continuel. Demeurer, c'est l'affaire de tous les jours, de toute la vie. Est-ce que nous allons terminer notre vie, chacun, en demeurant en lui? C'est une question, hein? Est-ce que nous avons déjà appris ce que c'est que demeurer en lui? Ou bien est-ce qu'on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire? Et comment puis-je savoir que je demeure en lui ou que quelqu'un demeure en lui? On va voir ces questions dans la première épître de Jean. Jean, c'est celui qui est peut-être qui avait compris le mieux, ou parmi ceux qui avaient compris le mieux, l'idée de demeurer en Jésus. Il faut savoir que c'est lui qui a reçu cette révélation de la vigne et du sarment et du cèpe. Hein. Et quand il prend son épître, sa première épître, eh bien, il nous parle beaucoup de ce sujet de demeurer en Jésus. Il ne cesse de revenir sur cette vérité, l'importance de demeurer en lui. Alors, comment demeurer en lui? On va voir plusieurs versets. Demeurer en Jésus, d'abord, ça passe par le fait de demeurer dans sa parole. Regardez 1 Jean, chapitre 2 et verset 24. Normalement, il va vous être affiché derrière moi. 1 Jean 2, merci Jean-Daniel. 1 Jean 2 et verset 24. Il dit ici que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et là, Dieu nous donne une direction claire, claire pour demeurer en lui. En fait, il faut s'attacher à l'enseignement que nous avons reçu au commencement, hein, ce que l'on a entendu. Et bien sûr, ce qu'on a entendu au commencement, ben, c'est l'enseignement de la parole de Dieu, hein. C'est les vérités de la Bible, de la parole de Dieu. Si on veut demeurer en lui, il faut garder cet enseignement dans notre cœur. C'est vraiment une priorité pour notre vie. Quelles sont nos priorités dans notre vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Qu'est-ce qui est le plus important pour notre famille? Est-ce que vous savez que nous retenons en moyenne 10% de ce que nous lisons? 10% de ce que nous lisons. Alors, c'est bien de se nourrir, notamment des méditations. Hein. François nous a donné une bonne illustration concernant cette méditation. Mais imaginez, vous lisez simplement 3 minutes une méditation de la Bible le matin. Quand vous partez, vous avez retenu 10%. 10%. Et souvent, c'est l'illustration. Souvent, c'est l'image qui a été donnée. C'est ça qu'on retient. Alors expliquez-moi comment on peut demeurer dans ces enseignements si notre seule nourriture, c'est une méditation dans laquelle on retient que 10%. Admettons, je lis des méditations, d'ailleurs sachez que vous pouvez avoir ça dans vos smartphones, hein. J'ai 3 types de méditations, c'est gratuit et on peut les lire, hein. Voilà, il y a une précieuse nourriture là. Mais admettons, vous ne lisez qu'une méditation tous les jours. Vous retenez 10% de la méditation. Qu'est-ce que vous avez retenu en fin de semaine de l'enseignement de Jésus-Christ? On peut se poser la question. Et c'est clair que pour demeurer dans les enseignements de Jésus-Christ, il faut lire les enseignements de Jésus-Christ. Il faut les lire. Il faut lire plus qu'un verset ou deux, plus qu'un psaume de temps en temps. Hein, de temps en temps, hop, on ouvre au hasard et c'est bien, il faut chercher, hein, il faut se nourrir. Mais il faut lire plus peut-être, hein. C'est vraiment important. Et c'est valable pour tous les chrétiens, les jeunes chrétiens, les chrétiens plus anciens dans la foi, parce qu'on a, tous les mêmes capacités en moyenne, bien sûr. Je sais qu'il y en a, ils retiennent 50%, hein, gloire à Dieu. Moi je retiens 10%, c'est sûr. Donc la moyenne c'est ça, c'est 10%. Donc on a besoin de lire vraiment davantage la parole de Dieu. Il y a des plans de lecture qui peuvent vous aider, vous savez, qui peuvent vous motiver. Hein, je peux vous donner ça, j'ai des plans de lecture. Ensuite, encore en moyenne, on retient 20% de ce que nous entendons. Chaque fois que vous venez écouter la parole de Dieu, vous retenez 20%. C'est un coup dur pour celui qui prêche ou tous les prédicateurs. Hein. Quand vous partirez, vous aurez retenu 20% de tout ce que vous avez dit. C'est peu finalement. Comment on peut demeurer dans les enseignements de Jésus? En fait, il faut écouter souvent. Écouter, réécouter, encore. Hein. Il n'y a pas d'autre moyen si on veut demeurer dans ce que Dieu nous a enseigné au commencement. C'est pour ça que les premiers chrétiens, naturellement, c'était même pas réfléchi, mais poussés par le Saint-Esprit, ils passaient beaucoup de temps ensemble. Ils étaient tout le temps ensemble, en fait, à écouter la parole de Dieu. C'est pour ça aussi que dans les assemblées partout dans le monde, eh bien, on essaye de se réunir plusieurs fois durant la semaine. Pourquoi? Pour se replonger à chaque fois dans les vérités de la parole de Dieu et de Jésus-Christ. Hein. Parce qu'on ne retient que 20% de ce que l'on entend. Ensuite, on retient 30% de ce que nous voyons. 30% de ce que vous voyez. Et donc, s'il y a quelque chose de visuel, une image, eh bien, l'attention est un peu plus élevée, ça se grave un peu plus dans notre mémoire. Alors les publicitaires, ils le savent, hein. Ils dépensent des sommes astronomiques pour essayer de capter le visuel. Voilà, c'est furtif, on placarde une publicité et ça vient se graver en nous, dans notre cœur. On retient ensuite 50% de ce que nous entendons et voyons. Quand il y a les deux, visuel et auditif, on retient beaucoup plus. Et aujourd'hui, dans une société de l'image, on se dit qu'il faut faire attention à nos enfants parce que c'est vraiment quelque chose qui vient s'ancrer en eux, hein. Ça veut dire que si les enfants regardent une publicité choquante à la télévision, ils retiennent 50%. Et puis vous leur lisez une histoire le soir, ils retiennent 20%. C'est dramatique, hein. C'est aussi pour ça que le dimanche matin, eh bien, à l'école du dimanche, on montre des images. Parce que pour essayer d'ancrer davantage dans le cœur de l'enfant les vérités de la parole de Dieu. Et j'en profite pour dire, il faut prier pour nos moniteurs de l'école du dimanche, hein, parce que la tâche est dure. ils doivent imaginer, ils doivent aller à contre-courant de toutes ces tablettes et toutes ces images et toutes. Voilà. Les enfants voient ça tout le temps. Et puis, il faut essayer de contrebalancer avec des histoires de la Bible. Il faut vraiment beaucoup de grâce, de sagesse et de secours de Dieu pour capter les enfants et essayer de concurrencer toutes ces images animées qu'ils peuvent voir durant toute la semaine. Ensuite, on retient 70% de ce que nous disons nous-mêmes. 70%. Quand nous prenons part, quand nous participons d'une manière ou d'une autre, c'est déjà davantage, 70% qui est assimilé. Par exemple, si vous partagez la parole de Dieu à quelqu'un, eh ben, ça s'ancre en vous. C'est précieux, ça, c'est précieux. Parfois, on se dit, prendre part à l'enseignement, quand même, c'est dur, hein. J'ai pas trop envie de m'avancer dans cette direction-là, hein, et on recule. Mais sachez que si Dieu vous y appelle et que vous vous avancez dans cette direction, vous en serez le premier au bénéfice. C'est vous qui allez être le premier béni de l'effort que vous allez fournir. Parce que tout ce que vous allez donner, 70% va s'ancrer dans votre âme. Donc ça invite à réfléchir, hein. Des fois on se dit, oh, non, moi, reste tranquille, pas plus. Peut-être pas, hein. Peut-être pas. Et pour finir, une autre chose que je voulais dire, c'est vous entendez quelque chose, vous êtes nourri de quelque chose de bon, partagez-le. Parce que quand vous le dites, 70% s'ancre en vous. Ça vous aide à clarifier tout ce que vous avez entendu et vraiment vous l'absorbez. Hein. C'est pour ça, on a un partage ici. Mais partagez, mes frères et sœurs, je vous encourage. Vous lisez un verset de la Bible, ne soyez pas timide, osez, levez-vous et dites: le Seigneur m'a fait du bien avec ce verset. Si vous le faites, ça s'ancre profondément en vous. C'est important. Et vous nous bénissez, vous nous faites du bien. C'est nous qui sommes enrichis. Dieu veut vous servir, veut se servir de vous. Et pour finir, on retient 90% de ce que nous faisons nous-mêmes. C'est le maximum. 90% de ce que nous faisons. Ça veut dire que quand nous mettons en pratique les enseignements de la parole de Dieu, alors là, ça devient du solide. Vraiment. C'est très concret en nous. Ça nous marque profondément. Ça fait partie de nous. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, hein, mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne laissez pas, ne vous trompez pas vous-même avec de faux raisonnements. Oh ben non, non. Mettez en pratique, obéissez. Et alors, vraiment, vous demeurez dans ces enseignements. Bien sûr, pour mettre en pratique, au préalablement, il faut avoir lu, il faut avoir entendu, il faut avoir s'être nourri. Hein. Ainsi, celui qui lit souvent la parole, qui l'écoute fréquemment, qui partage ce qu'il a reçu, et finalement le met en pratique, il demeure. Il demeure dans les enseignements de Jésus. Et Jésus dit: si tu demeures dans mes enseignements, alors je demeure en toi et tu demeures en moi. On est l'un et l'autre liés ensemble. On ne fait qu'un ensemble. Jésus nous le dit clairement, hein, Jean nous le dit, 1 Jean 2,24, hein, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et c'est quelque chose qu'il va répéter un petit peu plus loin. Regardez 1 Jean 3 et verset 24. 1 Jean chapitre 3 et verset 24. Il dit: celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Et l'expression garder ses commandements, c'est une autre manière de dire demeurer dans ce que l'on a entendu. Demeurer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et comment garder les commandements? De nouveau, on revient avec les mêmes réponses. Lire, se nourrir, hein, méditer, écouter, serrer dans notre cœur. Je me souviens d'un frère qui un jour, il y a longtemps, il m'avait dit qu'il avait l'habitude tous les midis de lire des proverbes de la Bible. Tous les midis. Alors, je ne sais pas, probablement il lisait d'autres choses à côté, je n'en sais rien. En tout cas, Voilà, je me disais, c'est formidable. Vraiment, ancrer les proverbes en nous. Et quelques années plus tard, il s'est retrouvé devant un choix à faire. Et il a fait le mauvais choix. Et pourtant, il y avait un proverbe qui dit exactement ce qu'il faut faire dans cette circonstance-là. Mais simplement pour vous donner l'illustration qu'on oublie. On lit et on oublie. Pourtant, ce n'était pas faute d'avoir vraiment médité les proverbes. Mais les années avaient passé, et puis ben voilà, on oublie. On est comme ça. Et c'est pour ça que Dieu nous répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, la même chose. On a besoin de ça. Et voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire tant qu'on sera ici sur terre. Dieu nous répète sans cesse et il nous dit, mais lisez, nourrissez-vous, saturez votre pensée de ma pensée. Saturez, j'aime cette expression, j'avais lu ça quelque part, saturez sa pensée, notre pensée de sa pensée. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Si ce que vous avez entendu demeure en vous, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Ensuite, comment demeurer en Jésus? C'est demeurer dans l'amour. Et regardez avec moi un autre verset, 1 Jean 4 et verset 16. Il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et on ne peut pas demeurer en Jésus si on ne demeure pas dans l'amour pour nos frères et sœurs, pour tous nos frères et sœurs. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et quand vous lisez toute l'épître de Jean, vous voyez que c'est un des grands sujets de l'épître, hein, l'épître, cette première épître, hein, l'amour fraternel. C'est impératif d'aimer, c'est-à-dire de vivre concrètement la parole de Dieu pour pouvoir demeurer en lui. Un théologien qui va passer 10 heures par jour dans les livres, à étudier la parole, etc., c'est pas la garantie qu'il va demeurer en lui, et qu'il va demeurer en Jésus. Il a besoin de mettre en pratique et de vivre ce qu'il lit, mais d'une manière pratique. Et on vit d'une manière pratique ensemble, dans la communion, dans ce que nous vivons avec les frères et sœurs notamment, et puis avec les gens du dehors. Hein. C'est essentiel de se nourrir de la parole, mais c'est aussi très important de vivre la parole. Il faut la mettre en pratique et il faut appliquer sans cesse ce plus grand commandement. Il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et Dieu veut qu'on demeure dans l'amour, dans une attitude d'amour, non seulement vis-à-vis de lui, mais aussi vis-à-vis les uns des autres. 1 Jean 4, versets 20 et 21, un petit peu après. Il est dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Très fort. Dieu étant amour, la communion avec lui, elle n'est possible que si on aime notre prochain et notre frère et notre sœur. Sinon, impossible de demeurer en lui. On ne demeure pas en Jésus. On ne peut pas le dire, hein, c'est pas vrai. Ça veut dire que dès qu'il y a en nous de l'indifférence vis-à-vis de quelqu'un, ou de la haine, c'est pire, hein, ou du rejet, eh bien on ne demeure plus en Dieu, parce que Dieu est amour. Dieu aime au travers de nous. Et s'il est libre de vivre en nous, eh bien il aime. Il ne peut pas faire autrement. Il aime. L'amour et l'indifférence, ça ne s'accorde pas ensemble. L'amour et la haine, ça ne s'accorde pas ensemble. L'amour et le rejet, c'est... Non, pas compatible. Et pour demeurer en lui, alors eh bien, il faut rechercher aussi l'amour pour nos frères et sœurs. Il faut aller vers les frères et sœurs. C'est garder le plus grand commandement. Alors d'une manière pratique, comment aime-t-on dans une église? Ben, on aime d'abord en s'intéressant à ceux qui sont autour de nous. Ça, c'est une première chose. Il faut s'intéresser aux autres. Hein. Ah, mais les autres viennent pas vers moi. Mais vous, est-ce que vous allez vers les autres? C'est aimer, c'est actif, hein. C'est pas passif. Aimer. Et chacun est précieux, chacun est quelque chose, est quelqu'un d'important, il a quelque chose à apporter, chacun compte. Un ennemi vraiment terrible, c'est l'indifférence dans l'Église. C'est un mal. Quand l'autre n'est pas, ou n'est plus intéressant pour nous, quand on ne désire pas forcément parler avec lui, on va plutôt l'éviter, et c'est le contraire de l'amour. C'est le contraire de l'amour. C'est la mort de l'amour. Et il ne faut pas rêver, même dans le corps de Jésus, il y a de l'indifférence. Il peut y avoir des affinités, et puis, voilà, puis finalement, il y a des gens où on ne dit jamais bonjour. C'est terrible. Qu'est-ce que fait Jésus? Qu'est-ce que fait Jésus? Alors c'est triste, hein, mais on est humain. Ça peut être pas la même éducation, pas le même niveau. Voilà, mais c'est un mal, hein. Pas le même langage. Vous dites non, c'est pas possible dans l'Église de Jésus-Christ. Et pourtant Jacques dénonce ça, hein, d'une autre manière dans son épître. Il dit, si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, hein, celui qui a réussi dans la vie, celui qui a eu une bonne éducation, celui qui a bac plus je sais pas quoi, et vous lui dites, toi assieds-toi là à cette place d'honneur, et vous dites au pauvre, toi tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? N'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Et le péché peut se trouver dans le cœur des enfants de Dieu. Aimer, c'est aimer tous. Jésus aime tous. Il accueille tous. Et chacun est précieux. C'est quelque chose. Hein. Quand vous vous dites que, avec ma petite intelligence de rien du tout, je me tourne vers lui, je lui parle, je lui dis mes prières, il s'intéresse à moi. Et il s'intéresse à vous. C'est quelque chose, quoi. Hein, parce que qu'est-ce qu'on est pour lui? Enfin, je veux dire, on n'est pas son égal, quoi. On n'est rien. Mais il s'intéresse à nous. Et on peut s'intéresser à tout le monde, aimer tout le monde. Aimez-vous les uns les autres. Ne soyez plus indifférents. Aimer, c'est pas faire de favoritisme, pas faire de distinction. Comment aime-t-on dans une église? En désirant passer du temps ensemble. Ça, c'est aimer. Et c'est le propre d'une famille qui s'aime. Il y a des familles, elles sont vraiment... Vous sentez qu'il y a une unité, elles sont tout le temps ensemble, elles ont envie de passer du temps ensemble. Une famille dans la chair, je veux dire. Hein. Et bien, c'est pareil pour l'Église. Quand on aime, on a envie d'être ensemble. On veut passer du temps ensemble. Par contre, on va éviter de passer du temps avec quelqu'un pour qui on a peu d'amour, parce que ça nous ennuie, parce que... on ne le supporte pas, parce qu'on s'irrite, hein, parce qu'on a des mauvais sentiments à son égard ou un esprit de jugement. Ensuite, on aime encore en proposant son aide spontanément. C'est une marque d'amour. Hein. On a un intérêt pour l'autre, on est prêt d'être serviteur de l'autre. On aime aussi en invitant chez soi, en étant hospitalier. L'Esprit de Dieu ne fait pas de favoritisme. Il aime tous les hommes, et il nous donne des occasions de le manifester. Et l'hospitalité, ben, ça en fait partie aussi. Si vous demeurez en Jésus, vous demeurez et vous devez demeurer dans l'amour. Sinon, le bas blesse. Dans 2 Corinthiens, il y a cette belle expression, élargissez vos cœurs. C'est Paul qui dit ça. Il leur dit aux Corinthiens, mais élargissez vos cœurs vis-à-vis de moi. Moi, je vous aime. Mais vous, est-ce que vous m'aimez? Donc on peut, parfois on est étroit, mais il faut s'ouvrir, hein, faire confiance. Et je terminais sur cela en disant que Dieu se plaît dans celui qui aime. Dieu se plaît dans celui qui aime. Et quand on n'aime pas, Dieu est triste. Comment demeurer en lui? Demeurer dans ses enseignements. Demeurer dans son amour, dans le fait d'aimer. Maintenant, est-ce que je peux savoir si quelqu'un demeure en lui? Il y a un test qui permet de savoir si une personne demeure en Jésus. Dans son épître de Jean, Jean s'adresse à des jeunes chrétiens donc qui n'avaient pas forcément du discernement et qui pouvaient être trompés, et notamment par des faux prophètes, par des faux enseignements, des faux enseignants. Et donc, il va leur donner une clé, quelque chose, hein, pour les aider à discerner un vrai chrétien fidèle qui marche avec Jésus. 1 Jean 2, verset 6. Il dit: celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et on peut prétendre dire: moi j'appartiens à Jésus et moi je marche avec Jésus, hein, je demeure en Jésus. Mais dans ce cas, la personne doit marcher comme Jésus marche. Si ce n'est pas le cas, si on ne voit pas Jésus marcher en elle, ben là, on peut rester avec un gros point d'interrogation et se poser de sérieuses questions. Le chrétien fidèle, il ressemble nécessairement à Jésus-Christ. Il y a quelque chose de Jésus qui va transparaître. Vous savez, c'est comme dans la photo. Enfin, maintenant, c'est plus comme ça. Mais avant, la photo, on prenait une photo, il y avait le négatif, on mettait le négatif, et puis on mettait une lumière, il fallait une lumière rouge pour protéger le papier, puis on passait les papiers dans plusieurs bains. Et il y avait un bain qui s'appelait le révélateur. Et vous mettiez le papier blanc, passiez dans ce liquide, on le secoue un petit peu, et puis là, petit à petit, le noir commence à apparaître. C'est un révélateur. Eh bien, ce verset, c'est un révélateur. Le bain révélateur des hommes qui prétendent être des chrétiens qui marchent avec Jésus, il faut se poser la question, mais est-ce qu'ils marchent comme Jésus a marché? Et là, vous savez. Et un jour, on aura peut-être besoin de ça. Vous savez, parce que parfois, il y a quelqu'un qui arrive, qui présente, une corbeille de fruits. Il y a des corbeilles de fruits qui sont très réalistes. Et quand vous touchez, c'est du plastique. Et bien, parfois, il y a quelqu'un qui arrive et vous dites: ah ben, je vois des fruits. On s'est déjà fait tromper, hein. Moi, je me suis fait tromper, hein. Je me suis dit: ah ben, il y a quand même des fruits, là. C'est du plastique. C'était pas vrai. Et parfois, quand c'est quelqu'un, qui est gentil, ça va. Mais quand c'est un loup, et ben là, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Il y a des églises qui se divisent, hein. Et il faut qu'on garde ça dans notre pensée, hein. Qu'on soit vigilant. Le diable ne nous aime pas et il aimerait bien détruire toutes les assemblées, cette assemblée. Et donc, soyons vigilants. C'est pas parce que quelqu'un présente bien que forcément il marche avec Jésus. Est-ce que vraiment il marche comme Jésus a marché? On reconnaît un arbre à ses fruits. Mais ce verset, c'est aussi pour nous. C'est un verset qui nous révèle où nous en sommes, nous, là, maintenant, dans cet instant présent. C'est important. Chaque fois qu'on perçoit un mauvais sentiment dans notre cœur, un peu d'irritation, quelque chose qui n'est pas bien, une attitude brusque, une parole dure envers un frère, envers notre conjoint, quand nous faisons ou disons quelque chose que Jésus n'aurait pas fait ou n'aurait pas dit, tout de suite, il faut s'arrêter, il faut se juger soi-même. Se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ça veut dire, là, maintenant, dans cet instant, je ne demeure pas en lui. Je suis sorti de sa main et je demeure dans la chair. Parce que celui qui demeure en Jésus, il ne pêche pas. Il ne pêche pas. Il ne pêche pas. Donc ça veut dire, le moindre petit péché que je vois dans ma vie, à cet instant, je dois m'arrêter. Dire: ouh, attention, Seigneur, là, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Pardonne-moi si j'ai péché quelque part, ou si j'ai lâché ta main, quelque part. Eh bien, ramène-moi, montre-moi, je te demande pardon, purifie-moi, lave-moi, et je rentre de nouveau dans la communion avec Jésus. De nouveau, je suis dans sa main. Et je demeure en lui, il demeure en moi. C'est la grâce, hein. On est lavé par le sang de Jésus-Christ, c'est immédiat. Mais il faut garder ça. C'est d'une manière constante, à chaque instant. Demeurer en lui, c'est jamais définitivement acquis. C'est plutôt une remise en question constante, à chaque minute, chaque heure, chaque jour. Le péché, c'est comme une maladie. Il faut savoir le diagnostiquer rapidement. Dès qu'on se dit: oh là, ça y est, je l'ai attrapé, vite, on revient à Jésus, hein. Celui qui demeure dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, et mutuellement en communion. Mais si je suis plus dans la lumière, eh ben, j'ai un problème. Il faut confesser. Et donc, ce verset, c'est une bénédiction pour nous aussi, hein, pour nous dire, mais où j'en suis vraiment avec Jésus-Christ ? Et demeurer en lui, c'est pas une alternative à la vie chrétienne, c'est la vie chrétienne. Le salut, c'est ça. Il nous sauve pour demeurer en lui. Il nous sauve pour qu'on soit mort à nous-mêmes et qu'il vive en nous. Donc, c'est ça la vie chrétienne. Être dans la dépendance de lui et demeurer tout le temps en lui. Alors, j'aimerais terminer avec un dernier passage qui nous révèle l'importance aussi de demeurer en lui. C'est 1 Jean toujours, chapitre 2 et versets 27 et 28. Jean 2:27, pour vous, l'onction, c'est le Saint-Esprit. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Car comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. C'est encore une exhortation à demeurer en lui. Pourquoi ? Pour ne pas être surpris lors de son avènement. L'avènement de Jésus-Christ, c'est le retour de Jésus, en fait. C'est quand Jésus va revenir. Et on sait qu'il va revenir d'une manière qui est soudaine, et on sera alors transformé, c'est ce que dit la parole de Dieu, transformé, comme Jésus ressuscité, quand il était ressuscité, eh bien nous serons transformés, ou bien ressuscités, ça dépend, hein, si nous serons morts au moment où il revient, ou si nous serons encore en vie. Les uns seront transformés, les autres vont ressusciter. Et Jésus va prendre son épouse, va l'enlever avec lui. Et le Seigneur va d'abord prendre sa bien-aimée. Il va d'abord venir prendre sa fiancée, prendre sa bien-aimée, comme un futur époux va prendre sa bien-aimée dans ses bras. Voilà, nous sommes la fiancée de Jésus-Christ. L'Église est la fiancée de Jésus-Christ. Mais on va vivre les noces de l'agneau. Il va nous emmener avec lui, revenir sur les nuées et nous prendre avec lui. Ça, c'est une étape dans le retour de Jésus-Christ. Mais il ne faut pas confondre cette étape avec une autre étape. C'est la deuxième étape. Puisque quelques années plus tard, il va revenir cette fois, mais il est dit dans la parole de Dieu comme un voleur. Comme un voleur, il va surprendre le monde et là, il va juger le monde. Et chacun va payer pour ses péchés. Et ça va être quelque chose de terrible. Le cours de la vie va s'arrêter d'un coup et il va juger le monde. Et il faut faire une différence entre ces deux venues. D'abord, il va venir prendre son épouse, l'Église, puis ensuite, il va venir juger la terre. Maintenant, si nous, enfants de Dieu, on va vivre cette première venue, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être surpris. Parce que ça va arriver aussi d'une manière soudaine. Ça ne va pas être comme un voleur. Ce n'est pas cet aspect-là. Mais on sera surpris. Qu'est-ce qui se passera si au moment où il nous appelle à le rejoindre, on est en train de regarder quelque chose de mauvais? Qu'est-ce qui se passera si au moment où il arrive pour nous prendre, on vient de se disputer avec quelqu'un? Qu'est-ce qui se passera s'il y a de l'amertume, s'il y a de la colère, s'il y a un refus de pardonner dans notre cœur? On aura la honte, il est dit, d'être éloigné de lui. C'est pas qu'il va nous éloigner de lui et nous rejeter loin de lui, c'est pas ça, hein. C'est pas ça, parce que si on est sauvé, on est sauvé pour toujours. On a la vie éternelle, c'est définitif. Mais l'expression, elle signifie plutôt que nous serons honteux d'être trouvés dans cet instant éloignés de lui, c'est-à-dire ne demeurons pas en lui. On ne demeurera pas en lui dans cet instant. Et donc, on sera de fait dans un éloignement de lui. Et on sera honteux. Il dit « Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance ». Un autre traducteur dit que nous ne soyons pas couverts de honte de par lui à sa venue. Une autre traduction dit que nous soyons pleins d'assurance quand il paraîtra et que nous n'ayons pas à rougir de honte devant lui le jour de sa venue. Là, il n'y a pas cette idée d'être éloigné de lui. Hein. L'idée principale, c'est ça, c'est d'être trouvé honteux, en fait. Hein. Il revient et on est honteux parce qu'on ne demeure pas en lui. On n'est pas le sarment attaché au cep, là, on est le sarment au pied du cep. C'est terrible, terrible. Dans le péché, à un moment. Jésus nous dit, demeurez en moi, demeurez dans mon amour, je demeurerai en vous. Et il faut aller dans cette direction, s'attacher à lui. Et si nous demeurons en lui, alors eh bien, nous serons heureux lors de son retour. Ça va être l'apothéose, hein? L'apothéose. Que Dieu nous aide à demeurer dans ses enseignements, à demeurer dans son amour, hein? Comme on l'a lu aussi dans ce verset qui est affiché durant tout le culte, qu'on puisse porter du fruit. Parce que c'est quand on demeure en lui qu'alors, eh bien, on porte du fruit. On va avoir un moment de prière. Vous pouvez prier librement, l'adorer, le remercier. Je vais demander si un homme voudrait bien commencer.